Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 18 août 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en léger recul, 115 000 dollars ce lundi matin, avec un Ether qui suit derrière, moins 5%, 4 250 dollars. XRP, pareil, moins 5%, qui repasse sous les 3 dollars. Et quand on observe ce top 15, ce top 20, eh bien grossièrement, on a des moins 3 à moins 8 pour Hyperliquid. On est toujours dans le vert pour les tokens, plus 2%, plus 4 pour Monero, moins 7 du côté de Uniswap. On a des contre-performances même à deux chiffres, Mantle qui recule de moins 11, tandis qu'il est toujours dans le vert en hebdo. Et d'ailleurs, quand on observe ici par exemple le top 20 au top 25, on commence à avoir des moins 15 à quasi moins 20 pour Etena en hebdomadaire, donc on a quand même un désengagement pour le court terme. On a moins 13 également pour OKB, mais qui avait progressé de 140%, alors j'ai enfin le fin mot de l'histoire. Apparemment, ils vont burn 70 à 90% de leur token, ce qui fait que mécaniquement, forcément, on a le cours qui a progressé de deux fois et demi avant de reculer comme il se doit, et le top 50 donc clôture désormais sous le 1,8 milliard de capitalisation avec ASA, Official Trump et WorldCoin, suivi de Render à la 47e place. On en parle beaucoup moins, et donc on a le WorldCoin qui est en recul de 13% sur la semaine, mais on voit que grossièrement, ben voilà, on a tout le marché qui est en train de prendre un peu un shoot, et c'est normal puisqu'on a eu quand même une belle progression, bien que ben, on est toujours à se demander comment on va s'articuler cette rentrée et ce septembre 2025, qui pour rappel est un mois un peu voilà, cocasse pour les marchés, puisque l'immense majorité du temps, c'est pas un bon mois pour le S&P 500 et pour la crypto, d'autant plus quand on est en année post-halving et qu'on a eu juillet-août en vert, et bien la plupart du temps, ça se transforme en un mois rouge pour le mois de septembre. Là aussi, la saisonnalité, on va pas prendre ça pour argent comptant, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait nous aiguiller. Le court terme n'a toujours pas changé, double échec pour l'instant entre 123 et quasi 125. Le support se trouve un petit peu plus bas, autour de 110 à 112. Une petite intermédiaire qu'on travaille d'ores et déjà autour de 115. Si on venait à repasser sous le range inférieur, la médiane se trouverait autour de 105. Et ensuite, il faut absolument défendre désormais les 100 000 sous peine, en effet, de rentrer dans un bear market prématuré. C'est pas quelque chose que je favorise pour la rentrée, mais je dirais qu'il y a 10, 20, peut-être 30% de chances qu'en effet ce cycle se termine un peu prématurément en fonction de différentes datas, en fonction de si Jérôme Powell décide de ne pas baisser les taux autour de la rentrée. Donc là, clairement, pour cet automne, on va marcher sur des œufs et on va croiser les doigts pour que le sursaut de liquidité mondiale slash peut-être qu'on aura une baisse de taux d'ici 2025 apporte au marché, et notamment au marché à risque tel que les crypto-monnaies le représentent, ce petit soupçons de risque supplémentaire et d'audace quelque part qu'il faudrait venir prendre sur les altcoins. Et tant qu'on observera des taux qui sont relativement hauts, comme vous le savez, les taux longs, voilà, c'est un peu les vases communicants qui malheureusement ne se sont toujours pas dégrippés en faveur justement de ces fameuses altcoins. Le Crypto Fear and Greed est sur le neutral à 60. Je suppose que si la semaine s'ouvre dans le rouge, on viendra peut-être même voir un petit peu la peur au cours de cette semaine. En tout cas, pour l'instant, comme vous le voyez du côté de Bitcoin, rien de dramatique, bien entendu. On a une consolidation qui est somme toute assez propre. Après, ce qui devrait nous interpeller, en effet, c'est le double échec comme ça autour de 120-125 000. Ça peut tout à fait, en tout cas en termes de multiples, en termes de timing et bon nombre d'autres choses, être le top de cycle pour Bitcoin sur ce cycle. Et pour les plus raisonnables d'entre nous, dans tous les cas, peu importe comment on prend les choses, on vise 130, 140, 150. Donc vous voyez qu'on est factuellement pas très loin des objectifs qu'on s'était fixés pour ce cycle. On va pas s'attarder énormément au niveau des news aujourd'hui, puisque je veux vous parler dans quelques instants chart à l'appui de ce qui pourrait se dérouler notamment entre 2026 et 2027, et je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus finalement, de se projeter aussi sur ce que peuvent nous offrir les marchés demain. Et j'ai essayé de vous récupérer pas mal de data en ce sens. C'est peut-être un truc qu'on traitera en deux fois, mais aujourd'hui je vous donne tous les chiffres tels qu'ils sont, et ça va vous permettre d'y voir relativement clair pour la suite, et de aussi jauger au mieux de la pertinence au final du scénario qui a le plus de chances de se dérouler entre cet automne 2025, tout 2026 et jusqu'à 2027 pour l'ensemble des marchés. Bien entendu, j'ai toujours pas trouvé la boule de cristal parfaite, mais en s'appuyant sur des datas qui remontent à 50 ans, voire parfois une bonne centaine d'années, on a quand même du grain à moudre. Et je pense que si l'histoire n'a pas tendance tout le temps à se répéter de manière parfaite, elle rime souvent, et c'est quelque chose qu'on peut observer très régulièrement en bourse. Et c'est parti avec le média de l'investisseur et les marchés japonais qui affichent des performances remarquables ces dernières années ainsi que de nouveaux ATH. Sur les 5 dernières années, le S&P 500 et le Nikkei 225 affichent des performances quasi identiques. On est à plus 85 pour le S&P 500 tandis que le Japan 225 est en effet à plus 91 sur 5 ans. Attention également aux devises qui peuvent impacter très largement. On l'a vu notamment pour ceux qui se sont exposés au fameux MSCI World de Amundi en euros. Eh bien, on n'a pas fait de nouvel ATH en euros tandis que le dollar, lui, l'avait fait très largement puisqu'on a un dollar actuellement qui est relativement faible. Et là aussi, la question se pose autour de l'automne de si le dollar va continuer à chercher du pétrole ou si on commence à avoir un rebond, ce qui, là aussi, viendrait punir quelque part les marchés à risque tels que les actions et les crypto-monnaies. Zero Hedge également met en avant ce qui pourrait s'apparenter à un semblant de warning puisqu'on est désormais au niveau du percentile depuis 1988 sur le price earning ratio pour le S&P 500 à 12 mois sur la même zone sur laquelle on était en août 2020 et également pas très très loin du niveau de 25 qu'on avait de valorisation en avril 99 juste au moment de la bulle des dotcoms, donc la bulle internet. Là, ce qui pourrait aujourd'hui poser un véritable problème, c'est d'avoir Nvidia qui à elle seule pèse 4 500 milliards, où on est plus ou moins à 100 milliards. Vous m'en voudrez pas, j'ai pas à vérifier là immédiatement puisque ça bouge pas mal, c'est quand même assez volatile, mais on doit être très proche des 4 500 milliards pour Nvidia, ce qui, quand on prend cette société à part entière, vous le voyez en haut ici à gauche, qui pèse 3 840 milliards, ce qui veut dire que Nvidia aujourd'hui pèse plus que l'intégralité du marché crypto, mais aussi quand on compare ces fameux 4 000, 4 500 milliards de Nvidia, ça pèse plus que l'économie entière de certains pays au niveau des sociétés. Quand on prend les plus grandes sociétés de certains pays bien développés, on ne parle pas de pays émergents, eh bien Nvidia à elle seule pèse parfois plus. Donc c'est là où on se dit, ben, en effet, oui, on a cette bulle IA qui est en train de se développer et probablement que c'est une des grandes révolutions technologiques et c'est une des grandes révolutions industrielles tout court auxquelles on va faire face dans les prochaines années. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un des sujets et des enjeux majeurs et probablement que ça va perdurer vraiment au travers du temps, là, pour le coup. Mais entre-temps, est-ce qu'on aura justement un éclatement de bulle, que ça soit sur Nvidia ou l'ensemble du domaine? En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, ça porte très largement l'indice. Et donc, je vous propose de rentrer quelques minutes dans ce que pourrait nous offrir justement cette volatilité en 2025-2026, mais surtout ce calque qui est assez phénoménal quelque part avec le cycle de la présidence des États-Unis. Et c'est là où c'est peut-être un truc qui n'a pas encore été super exploité et qui pourrait être intéressant de dérouler dans une émission à part entière, de peut-être que Satoshi Nakamoto aussi pour le Bitcoin a calqué ce fameux cycle de 4 ans du halving sur les microcycles intermédiaires de l'économie traditionnelle et pourquoi pas sur le cycle de 4 ans de la présidence des États-Unis, ce qui aussi pourrait laisser entrepercevoir un indice sur comment Satoshi Nakamoto interprétait quelque part les marchés financiers. Et c'est là où, quand on rentre vraiment dans le détail, c'est assez surprenant puisque on a finalement chaque cycle de 4 ans de la présidence des États-Unis qui a tendance à se passer à peu près de la même manière. Alors, bien entendu, il y aura toujours des disparités, il y aura systématiquement des contre-exemples, notamment quand on regarde sur une cinquantaine d'années pour dire ok, une fois, deux fois, trois fois sur 50 ans, ça s'est passé différemment. Mais quand on observe 2018, 2022 et peut-être 2026 pour le marché crypto, et d'ailleurs même après la publication hier, je suis remonté à 2014 vis-à-vis du Bitcoin et ça fonctionne aussi pour 2014, ce qui veut dire que 2014, 2018, 2022 et potentiellement 2026, si ça vient à arriver, ça serait complètement fou si de nouveau ça se repasse à l'identique. Et donc on part pour quelques images avec le retour depuis 1931 sur les average midterm elections, avec une année qui, comparativement aux autres années, est beaucoup plus flat. Il y a plus de volatilité, mais surtout de volatilité négative, comme on peut l'observer comparativement aux autres années. La première année a tendance à se passer plutôt positivement, avec un ratio depuis 1929 qui vient à plus 6,7%. Donc c'est exactement ce qui s'est passé cette année, en 2025, à ceci près que la présidence de Trump est exactement là aussi un peu le calque de ce qui s'était passé en 2017 avec un momentum sur le tout début qui est favorable. Derrière, la petite crise où Donald Trump fait du Donald Trump et par la suite, on a l'apaisement avec des marchés qui ont retrouvé leurs ATH, voire qui les ont dépassés, bien entendu. Vient ensuite la seconde année et c'est là où on parle parle des fameux midterms. Alors, ça va être quelque chose qui, pour nous, pour le marché crypto, si on s'en fie là aussi à ce qui s'est passé précédemment, et c'est là où je vous disais que je vais vous le faire en deux parties, puisque je veux vraiment rentrer beaucoup plus profondément que ce que je le fais aujourd'hui dans ce sujet. Et donc, 2026 serait plutôt une année défavorable pour le S&P 500 et par corollaire pour le marché crypto. Alors, c'est pas une science exacte, puisque, comme vous le savez, depuis 2024, on a l'introduction des ETF, ça a pas mal rebattu les cartes pour le marché crypto. Donc qui sait, si ça se trouve, à partir du moment où on aura eu la baisse de taux effective plusieurs fois, etc., entre 2026 et 2027, peut-être que le marché crypto peut vivre sa propre vie et ne sera plus totalement corrélé au marché américain. En tout cas, jusqu'ici, on est pas mal corrélé à la tech et au S&P 500, donc Nasdaq et S&P. Et pour l'instant, on va prendre ça pour acquis jusqu'à ce qu'il y ait un changement profond de paradigme, comme même à l'appeler les institutionnels. Donc on peut observer que comparativement à l'année première de la présidence, la seconde année est quasiment deux fois moins favorable, puisqu'on est à peine à 3,3% depuis 1929 là également. Ce qui fait que ben, ça en fait une année où, en général, on a tendance à avoir une volatilité négative qui va venir chercher du moins 10 à moins 20%, un peu comme on l'avait eu au moment des tarifs de Trump. Au pire du pire, lors des récessions, moins 25 à moins 35%. Et c'est là où ça devient le plus intéressant vis-à-vis du marché crypto, c'est que devinez qu'est-ce qui s'est passé justement sur cette seconde année de la présidence des mi-termes par rapport au cycle de 4 ans du Bitcoin. Eh bien, c'était précisément 2014, 2018, 2022 et potentiellement 2026. Là aussi, pour le rentrer dans les détails, je vous tease un petit peu. Devinez à quel moment précisément, notamment en 2018 et 2022, on a eu le plus bas de marché et la zone la plus dure. Eh bien, je vous le donne dans le mille, c'était le moment précis où justement il y a eu le mois des midterms. On se souviendra notamment de novembre-décembre 2018 pour ceux qui étaient déjà là. La bonne nouvelle pour nous, c'est que si 2026 est placé sous l'égide, en effet, entre novembre et décembre 2026, d'un point bas pour le bear market de ce cycle de 4 ans quelque part pour le marché crypto, la troisième année, c'est-à-dire 2027, si ça vient à être respecté, bien entendu, j'essaie toujours pas de vous dire que ça va précisément se passer comme ceci, nous offrirait un ratio de pourcentage positif depuis 1929 de plus 14%. Donc on voit que la première année est positive, la deuxième beaucoup moins, la troisième, une fois qu'on a purgé les excès au moment des mi-termes, est assez extraordinaire. On peut d'ailleurs à cette occasion décomposer depuis justement 1950 à 2018-2019. C'est dommage que ce graphique n'ait pas jusqu'à 2025. Mais voilà, quand on prend la moyenne de toutes les autres années, on a effectivement 7% en incluant le mi-term qui n'est pas très favorable. Quand on prend la troisième année après les mi-termes, on est plutôt sur du 15% depuis 1950. Vous allez me dire, ben, qui dit cycle de 4 ans, que se passe-t-il la dernière année de présidence, c'est-à-dire 2028 ici pour Donald Trump? Eh bien, c'est un 6,2%. Donc, on revient finalement à peu près à la moyenne qu'on avait la première année, avec là aussi, potentiellement, en fonction de ce que fera Jérôme Powell sur 2026, 2027, et même ça va s'étaler sur plusieurs années finalement, cette histoire, on peut avoir une belle détente et vous pouvez avoir un petit peu plus de volatilité, mais en tout cas, on est dans ces clous-là depuis 1929. À noter que depuis 1970, le gros pic de volatilité se fait en août, septembre, octobre, au moment des midterms. Ça tombe bien puisque nous, ça sera novembre 2026 pour Donald Trump. Donc vraiment, on est tout à fait dans les clous de ça. Et je suppose que pour ceux qui voudront faire un DCA agressif au niveau du Bitcoin, ça va se passer entre la fin d'été 2026 et la fin d'année 2026. Et une petite data macro-politique quelque part, avec à partir du moment des midterms seulement trois fois depuis 1934 jusqu'à 2018 toujours, dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'historique, mais il n'y a eu que trois fois sur 85 ans où ça s'est passé en effet de façon à gagner des sièges et des votes post-midterm justement. Donc en général, c'est un changement assez profond et l'immense majorité du temps au niveau justement de la politique qui va être menée. Donc c'est pour ça que aussi je suppose, je ne suis pas là aussi du tout un spécialiste de la politique et encore moins de la politique aux États-Unis, mais qu'il déploie un maximum d'énergie sur la première année pour voir un peu quel va être le vote justement sur la seconde année. Et c'est là où finalement les marchés digèrent ce qui s'est passé un peu d'euphorique sur la première année de présidence pour ensuite avoir un apaisement au cours de la troisième année. Donc si on résume ça, avec un gouvernement unifié, c'est 10% de volatilité de 1933 à 2021. Un congrès unifié, c'est 7,4%. 4% et un congrès splitté, on est à 10,8%. Là aussi, bon, c'est des statistiques qui ne changent pas grand-chose à la donne, mais je préférais vous les donner. Donc c'est intéressant de se dire que finalement, le marché crypto est peut-être pas si décorrélé que ça de la finance traditionnelle, voire même beaucoup trop corrélé à cette dernière. Et donc un cycle de la présidence des États-Unis qui, en tout cas depuis une bonne dizaine d'années, puisqu'on peut remonter en effet à 2014, si on remonte au tout début de Bitcoin, les premières années, vous vous doutez bien que ça a fait énormément de volatilité, ça vivait sa propre découverte. Donc finalement, que ça soit le côté économique pur et dur ou le côté du cycle présidentiel, ça avait assez peu d'impact. À partir de 2014, on peut mesurer et quantifier de manière tangible, de manière factuelle et mathématique, le fait que oui, la présidence de 4 ans a eu un impact sur le cycle de Bitcoin. Alors, ce n'est pas un impact direct, c'est juste un ricochet de la politique qui est menée vis-à-vis des États-Unis. Le cycle des États-Unis qui lui-même se déroule finalement de 4 ans en 4 ans et le macro-cycle économique américain en a entre 8 et 12 ans en général. Donc vous voyez qu'on reste quelque part un peu sur ces fameux multiples de 4. Et nous, pour le marché crypto, quand on regarde bien 2014, 2018, 2022, peut-être 2026, et là aujourd'hui 3830 milliards, eh bien on voit que la bougie de la semaine dernière fait enfin son office. On est passé juste au-dessus des 4000 milliards. Et pour l'instant, on se fait repousser. De même que le RSI est en train de nous faire une jolie oreille de chat autour des 70, voire un peu en dessous, 67, 68. Donc pour l'instant, statu quo de ce côté-là. Mais ça nous démontre que si on venait à rentrer en bear market, en effet, ça pourrait se passer au cours de 2026. Et le plus intéressant pour nous, ça veut dire que le pic de volatilité et de négativité concernant 2026 pourrait s'opérer autour de l'automne fin d'année. Donc ensuite, j'ai pas mal de data à vous donner autour de ça. Sur scénario pessimiste, moyen, optimiste, comme vous le savez, j'ai fait pas mal de recherches au cours du week-end. Enfin voilà, j'ai des pages et des pages de choses qu'il faut que je synthétise finalement avant de vous le proposer. Aujourd'hui, je vous donnais les grandes lignes au final de ce qui a quand même pas mal de chances de se passer dans les 2-3 prochaines années, vu qu'en plus, on peut aussi regarder un petit peu ce qu'a d'ores et déjà fait Donald Trump sur sa première présidence. On peut se dire que oui, le monde est différent, que la politique monétaire est différente, etc. C'est pour ça que systématiquement, j'ai pris des datas qui venaient à minima de 50 ans et parfois quasiment à une centaine d'années, puisqu'on remontait jusqu'à 1929. Et malgré tout, vous voyez que finalement, ça reste assez pertinent. Donc là, ce qu'il faudra surveiller pour le marché crypto, comme vous l'avez vu au niveau de Bitcoin, c'est de 5 en 5, les 115, 110, 105 et 100 à ne pas perdre pour la suite. Également, la dominance des stablecoins qui est en train potentiellement de faire son début de rebond autour justement de la trend RSI qu'il avait cassé à la baisse, mais qu'il est en train de raccrocher double creux ici, double creux potentiel au niveau du cours. Donc vraiment, là, on a un risque malgré tout que septembre se passe tel qu'il se passe d'habitude au niveau de la saisonnalité, c'est-à-dire assez négatif finalement. Le Bitcoin en tant que tel, je reviens pas dessus, les moyennes mobiles, tout ça, ça n'a pas changé depuis la dernière émission. Peut-être un coup d'œil sur Ether pour vous rappeler que désormais, on n'aimerait pas perdre les 4000. 4000, c'est un peu le gros support, c'est la zone qui a été travaillée mars 2024, ici mai 2024, on ne passe toujours pas en décembre 2024. Petite consolidation et rejet le 28 juillet 2025 et enfin on passe pour venir très proche de l'ATH, mais on l'a quasiment pas touché. Là aussi, on a un petit qui est en train de se former RSI, donc vraiment, bon, si les 4000 venaient à lâcher, ça serait pas la fin de Ether, mais ça remettrait vraiment pas mal de choses en considération, un peu comme ce qu'il nous a fait tout au long de ce cycle, à vraiment nous mettre des bâtons dans les roues et à avoir une certaine illisibilité qui a rendu justement l'investissement sur cet actif relativement pénible depuis ces 2-3 dernières années. La Bitcoin dominance défend ses 60 et quelques pourcents, mais on est malgré tout sous un support ici, donc à voir si l'évolution ne se fait pas malgré tout à la baisse. Ceci étant dit, quand le marché crypto purge et baisse, Bitcoin baisse forcément moins vite que les alts, en tout cas la plupart du temps. Ce qui fait que mécaniquement, la dominance a tendance à remonter. Le seul moment où finalement la dominance baisse, c'est quand Bitcoin est totalement stable et que les alts peuvent enfin se réveiller. Donc vu que les marchés ne sont pas encore tous réouverts, et notamment le marché américain, on ne va pas s'étaler sur sur les indices et commodités, en tout cas pour l'instant. Mais là aussi, c'est plutôt intéressant de se dire que bah, on a un marché en 2025 qui est sur un nouvel ATH pour le S&P. On peut aller au cours de l'automne, de même que sur le marché crypto, chercher le dernier petit excès. Mais je pense toujours pas qu'on ait les conditions parfaites analogues pour lancer une grande alt-season qui peut-être ne viendra tout simplement pas sur ce cycle et sera potentiellement reportée au cycle d'après lorsque ce coup-ci, on aura une Fed qui aura complètement détendu ses taux sur 2026-2027 et un bull run qui pourrait se passer là un peu plus du côté des altcoins que du côté de Bitcoin qui, rappelons-le, sur ce cycle nous a poussé quand même 700%, c'est complètement fou. Donc dans tous les cas, si on s'en fie à l'histoire, pour résumer toute cette petite émission qui j'espère vous aura permis d'y voir un peu plus clair pour les années à venir, toujours sans avoir de boule de cristal bien entendu, mais on devrait avoir en 2026 un moment où on pourra rentrer sur les indices entre à minima moins 10, au mieux moins 20, au pire si vraiment il y avait une récession qui était pricée et que la baisse de taux ne soit toujours pas à l'ordre du jour, moins 25 à moins 35 en cas de récession ou de blocage profond de l'économie américaine, ou que on se rende compte que les tarifs ont vraiment fait beaucoup plus de mal que de bien. Et par la suite, du côté du marché crypto, ça pourrait donner en effet voilà une baisse du côté de Bitcoin entre moins 50 à moins 70% si on se fie là aussi au passé, tout en diminuant énormément la baisse, puisqu'on a fait précédemment moins 89, moins 85, moins 77. Donc sur ce cycle, à minima moins 50, ça semble pas déconnant, avec en effet les ETF et les inflows des participants institutionnels qui pourraient un petit peu mieux absorber et peut-être aussi un peu mieux amortir par la suite. Ça ferait un peu cet amortisseur de se dire ok, les institutionnels, si on leur donne un Bitcoin à moins 50% aujourd'hui, ils vont certainement pas aller attendre moins 60, moins 70 ou que sais-je pour commencer à repayer, et c'est ce qui pourrait faire en effet qu'on aurait un bottom un peu plus smooth, un peu plus coulé que ce qu'on l'a eu par le passé où vraiment c'était des descentes infernales du côté du marché crypto. Je mets pas de côté bien entendu qu'on puisse se prendre moins 70 des plus brutaux du côté de Bitcoin, et c'est-à-dire moins 80 et plus du côté des alts, mais c'est vrai que pour la première fois on a un comportement quand même qui est un peu plus intelligent et intelligible au niveau des flow, des outflows, et c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette émission vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. On fera le point de 6 mois en 6 mois, de voir si on se dirige bel et bien vers ce scénario qui a l'air en tout cas sur le papier et historiquement d'être celui qui aura le plus de chances de se dérouler. Comme d'habitude, les marchés feront bien ce qu'ils voudront derrière, et comme vous l'avez vu depuis 2020, il peut nous arriver tout et n'importe quoi du jour au lendemain qui viennent complètement chambouler le plan qu'on s'en était fait. Je vous souhaite un très bon début de semaine, très bon lundi, dernière quinzaine d'août, dans une quinzaine de jours c'est la rentrée, et un mois de septembre qui, espérons-le, ne sera pas trop rouge pour nos portefeuilles, et si c'était le cas, bien, ça serait peut-être le moment opportun en effet pour jouer un petit peu cette saisonnalité automnale ensuite octobre-novembre, mais au risque en effet de voir en 2026 quelque chose d'un petit peu moins positif pour l'ensemble des marchés, ce qui collerait là aussi plutôt pas mal au cycle de 4 ans et qui finalement nous aussi rechallengerait un petit peu sur nos positions, où on avait tendance à se dire que avec l'arrivée des institutions, ce cycle de 4 ans disparaîtrait. Donc la question qui perdurera face à tout ça, c'est est-ce que ce cycle de 4 ans est bel et bien que le cycle du halving pour Bitcoin, ou si finalement on était pas mal depuis une bonne dizaine d'années calqué aussi sur le cycle de la présidence des États-Unis, qui elle-même a un impact assez colossal sur les marchés. La question se pose. Très bonne journée et à mercredi. Ciao, ciao.